Merci de nous suivre comme tous les dimanches, fidèles auditeurs. Nous sommes ravis de vous savoir nombreux à l'écoute de Studio Tamani. C'est l'heure de votre émission humanitaire Faboudirine qui s'intéresse au quotidien des personnes déplacées internes à travers le pays. L'éducation est un droit fondamental, mais pour des milliers d'enfants au Mali, ce droit est sérieusement compromis par les déplacements forcés. Ce soir, votre émission se penche sur la problématique des examens de fin d'année pour les élèves déplacés internes. Nous explorerons les obstacles majeurs auxquels ces élèves sont confrontés, allant de l'absence de matériel scolaire aux difficultés d'accès au centre d'examen, en passant par le choc émotionnel qu'engendre le déplacement. Nous mettrons en lumière les efforts déployés par les organisations humanitaires et les autorités pour assurer une continuité éducative et la participation de ces jeunes aux épreuves nationales, notamment les diplômes d'études fondamentales DF. Quels sont les dispositifs d'aide existants? Quelles sont les lacunes persistantes? Et quelles sont les recommandations pour améliorer la situation? Nous posons le débat ce soir avec M. Djoukou Konaté de l'ONG Edico Mali. Nos rubriques habituelles seront bien évidemment de la partie pour agrémenter cette émission. Je suis Lala Diarra Touré à la présentation, à la technique Mamadou Ouattara. Bonsoir à tous et merci de nous suivre. Merci encore une fois de choisir Studio Tamani à travers les antennes de nos radios partenaires. Je vous le disais à l'instant, les dates des examens au Mali sont fixées du 2 au 4 juin 2025 pour le diplôme d'études fondamentales et du 23 au 26 juin 2025 pour le baccalauréat. Parmi les candidats, on retrouve également des élèves installés sur les sites des personnes déplacées internes qui se préparent activement malgré les conditions difficiles. Dans ce magazine réalisé par Khalifa Goïta avec le soutien de nos correspondants, nous faisons le point sur leur parcours et les efforts déployés par ces candidats, pas comme les autres. Suivons ensemble.
Amadou Cissé est déplacé interne sur le site de Barbé Plateau 2, situé à la sortie de Sévaré dans la région de Mopti. Ce candidat au diplôme d'études fondamentales DF fréquente une école de la ville. Le programme de l'année est épuisé, dit-il, alors que l'examen s'annonce à grands pas, il ne baisse pas les bras.
Je suis le candidat du DF, comme nous sommes de la fin de l'année aussi. Maintenant, on n'a pas de temps de faire quelque chose, sauf de faire des révisions seulement, pour qu'on doit trouver un autre point. Résultat, ça va cette année quand même. Oui, on a fini de tous les programmes.
Dans la foulée, Ali Barry, père d'un autre candidat au DF, vit sur le même site. Ce chef de famille indique créer toutes les conditions favorables pour aider son enfant à préparer et réussir son examen. En clair, il s'est dit confiant malgré le stress que vit le candidat.
Depuis que j'ai été informé qu'il est candidat au DEF de cette année, je veille sur lui au quotidien. Je l'encourage à apprendre ses leçons tous les soirs. Il a beaucoup réduit les sorties. Cependant, cela fait 2 jours qu'il n'est pas stable. Je trouve qu'il est un peu stressé puisque l'examen s'approche. Je continue de lui dire de se calmer. Il est le premier de sa classe. Mais je sais que ça ne suffit pas. Les efforts qu'il est en train de fournir me rassurent. S'il plaît à Dieu, tout ira bien.
À Massina, dans la région de Ségou, des élèves et leurs familles ont dû fuir des villages à cause de l'insécurité pour se retrouver dans cette ville. C'est le cas notamment de Oumou Boiré, venu de Soumounou, Bintou Damele, venu de Diosso et de Awa Diara, du village de Monipebougou. Ces trois candidates sont au four et au moulin dans les préparatifs d'IDF.
C'est à cause des conflits que nous avons quitté Soumouni pour Massina. Des écoles ont été fermées. Nous faisons des exercices. On espère réussir au DF.
Je viens de Diosso. J'apprends mes leçons. Pas de problème pour les
mots. Après avoir quitté Monipebougou, nous étudions bien ici. On fait des exercices avec les candidats à Massina. Tout se passe bien.
À Bandiangara, il existe des personnes déplacées internes. Ici, sur les sites, des espaces sont aménagés pour permettre aux tout petits d'apprendre. Mais d'autres élèves convergent tous les matins vers des établissements scolaires dans la ville. Certains parmi eux s'apprêtent à faire l'examen du DF cette année. Denis Poudjougo, directeur du second cycle du groupe scolaire Seydou Nantoumé de Bandiangara, nous donne plus de détails.
Nous avons des élèves déplacés au nombre de 76. Leur niveau est acceptable. Réparti entre les 3 classes. 7e année, nous avons 10 filles, 25 garçons. 8e année, 8 filles et 11 garçons. En 9e année, 12 filles, 10 garçons. Au préparatif des examens, ça va de bon train. Les cours de rattrapage sont organisés par les maîtres. Les élèves se sont organisés également en groupe d'examens. exercice. Tous ces enfants viennent régulièrement à l'école.
De Bandiangara, nous nous rendons à Saint à cause de la situation sécuritaire. Pour bien étudier dans des endroits de la région, des parents ont envoyé les progénitures dans des familles d'accueil à Saint. Les élèves que nous avons rencontrés sont tous des candidats au baccalauréat. Malgré certaines contraintes, ils sont optimistes.
J'ai fait terminal. J'ai quitté au village de Kama, commune de Chiela. On est en train de faire l'exercice du groupe quoi, à la maison. En l'apprenant, nous laissons l'année dernière. On était de problème de comptabilité mathématique, mais cette année, ça va un peu.
J'ai quitté Chiadou, je fais Tesco. Je prépare bac, j'ai des difficultés. Je n'ai pas bien en maths, philosophie aussi.
Je viens au Mané, commune de Timsa, cercle de Tomia. On prépare, c'est le courage pour faire l'exercice. Parfois, on a un problème d'énergie.
Le chemin est encore plus parsemé d'embûches pour les personnes déplacées internes. Abou Soufiana Ag Mohamed est sur le site des déplacés d'Atetebougou à Ségou. Il nous parle de son vécu et de son ambition.
Je n'ai pas pu réussir au DEF. Comme vous le savez, il y a beaucoup de travail ici. Nous sommes des personnes déplacées internes venues dans la zone de Nyoum. J'ai abandonné l'école parce que j'étais découragé. Aujourd'hui, j'aimerais faire une école de santé, mais je n'ai pas les moyens. Je me débrouille ici. Je demande à toutes les personnes qui peuvent m'aider de bien vouloir le faire. Je suis sûr que cela va m'aider dans l'avenir.
Des pédagogues invitent ses parents à continuer d'encourager leurs enfants malgré les conditions difficiles pour réussir une année académique.
Nous venons de suivre à l'instant un magazine sur les préparatifs de l'examen du diplôme d'études fondamentales. Comme annoncé en début de mission, nous avons comme invité ce soir M. Djoukou Konaté de l'ONG Edicomali. Il est basé à Ségou et notre correspondant sur place afin un entretien avec lui que je vous propose à présent de suivre la première partie et nous allons nous retrouver juste après.
Bonsoir monsieur.
Bonsoir, je réponds au nom de Djoukou Konaté. Je suis chef de projet humanitaire au sein de l'organisation internationale EDICO, qui est une ONG spécialisée en éducation et aussi dans les réponses humanitaires basée au Mali depuis 2000. Donc, je suis chef de projet et spécialisé en éducation en situation d'urgence.
D'accord. Merci beaucoup, M. Djoukou Konaté. Alors, dans quelle mesure la crise que connaît le pays depuis plus d'une décennie a-t-elle impacté l'éducation?
Oui, au niveau du Mali en général, on peut dire que effectivement la crise a impacté sur l'éducation, sur le système éducatif même. À partir du moment où de nombreuses écoles ont été affectées, donc on peut enregistrer selon les données du cluster éducation à peu près 2000 écoles qui sont non fonctionnelles à travers le pays, et particulièrement pour la région de Ségou, déjà on peut identifier 289 écoles qui sont non fonctionnelles et qui affectent 87 000 enfants, ne serait-ce que pour la région de Ségou. Donc on peut dire vraiment que la crise a négativement impacté sur l'éducation.
Est-ce qu'on a des statistiques des régions les plus touchées?
Oui, effectivement, comme je l'ai dit d'abord même à l'introduction, ça c'était la situation globale, mais au niveau de la région de Ségou, par exemple, donc on peut carrément déchiffrer 289 écoles non fonctionnelles sur 1921, donc ce qui représente 15%. Et aussi, il y a les régions du centre, là, au niveau de Banyangara, par exemple, où on a 311 écoles non fonctionnelles sur 911, donc qui représentent 34%. À Douanzan, on a 599 écoles, dont 283 sont fermées. Donc, je me limite seulement à ces chiffres-là pour vous dire vraiment que l'éducation est vraiment impactée par la situation sécuritaire au niveau du pays.
Comment cela se répercute dans le déroulement des examens de fin d'année?
Oui, donc la situation de non-fonctionnalité de ces écoles-là a forcément des impacts sur l'organisation des examens. Cela peut quand même s'expliquer par des difficultés d'acheminement de matériel et des sujets d'examen dans les centres. Et il y a aussi les centres des examens qui sont déplacés ou qui ont été fusionnés. Et même hier tout près, on a reçu un communiqué du centre d'animation pédagogique de Yangasso, voilà, qui demande maintenant à la coordination des directeurs d'école de prendre les dispositions pour que tous les enfants candidats au DEF puissent converger vers le chef-lieu de la commune. Donc vous voyez que cela vraiment peut avoir des conséquences sur le bon déroulement des examens et aussi sur peut-être engendrer un faible taux de participation des enfants aux examens, compte tenu vraiment des mouvements de déplacement qu'ils auront à faire pour y regagner les centres des examens.
Alors, au-delà des aspects académiques, quels sont les défis émotionnels ou physiques auxquels les élèves dans les zones d'insécurité font face?
Par rapport à cela, je dirais que les enfants vivant dans les zones d'insécurité souffrent de nombreux traumatismes psychologiques. D'abord, on peut identifier les cas de stress chronique liés aux violences ou aux déplacements et à l'instabilité familiale, parce que le fait que les parents se déplacent d'une localité à une autre avec les enfants, ou que certains ont été témoins même des exactions ou des violences. Il y a aussi le sentiment d'abandon, voilà, de perte permanente, de troubles de sommeil et de baisse aussi d'estime de soi qu'on a pu observer dans certains cas. Il y a également des difficultés de concentration en classe, voilà, les repris sur soi-même et parfois des comportements aussi anxieux qu'on a pu observer sur ces enfants. Donc tous ces troubles-là affectent fortement leur capacité d'apprendre et à réussir leurs examens dans les écoles.
Vos activités prennent-elles en compte ces aspects?
Oui, tout à fait. Érico a pensé à ces aspects et a pris des dispositions pour quand même y remédier. Nos activités intègrent une approche psychosociale. D'abord, nous faisons la formation des enseignants à la prise en charge psychosociale de base en milieu scolaire, mais aussi nous faisons la mise en place d'espaces sûrs et d'animation des sessions de soutien psychosocial avec les enfants pour favoriser l'expression des émotions, le jeu et la cohésion sociale. Il y a aussi l'appui aux mécanismes communautaires pour le repérage et la prise en charge des enfants en détresse psychologique avec des mécanismes de référencement vers les structures spécialisées et leur prise en charge.
D'accord. Quelles sont les initiatives spécifiques que votre organisation met en place pour soutenir les élèves de façon générale?
Oui, comme je le disais tantôt, notre approche est holistique. Et inclut, par exemple, je peux dire, les cours de soutien scolaire que nous faisons pour les enfants déplacés internes en difficulté d'apprentissage. Nous faisons aussi la distribution des kits scolaires et des kits didactiques dans les écoles où nous intervenons. Nous faisons la réhabilitation des écoles, salles de classe, latrines et points d'eau pour améliorer les conditions d'apprentissage. Mais aussi la mise en place et accompagnement des centres d'alternatives éducatives tels que les centres SSA, les EACO. EACO, c'est École d'apprentissage communautaire, et aussi les EAT, espaces d'apprentissage temporaire, donc qui sont à nos dispositions pour quand même favoriser, sinon faciliter la continuité éducative des enfants. Donc s'il y a des mouvements de crise, de déplacement des populations, donc, à la suite des alertes, nous participons à l'évaluation des besoins dans le domaine de l'éducation et de la protection. Donc, à la suite maintenant de ces besoins évalués, nous apportons des réponses. Donc, ce qui nous permet en tout cas d'identifier les enfants qui étaient déscolarisés ou qui ont été déscolarisés à cause de leur déplacement. Donc, nous apportons des réponses en fonction en tout cas des besoins. Si c'est des enfants qui avaient décroché pour un long temps, là, il faut nécessairement maintenant les mettre dans les centres SSA. Mais si le décrochage ne dépasse pas un trimestre, donc nous mettons en place ces alternatives qu'on appelle espaces d'apprentissage temporaire, où les enfants bénéficient en tout cas des cours de rattrapage accéléré et aussi des soutiens sociaux en fait de les réintégrer directement dans les écoles formelles d'accueil. Mais les IACO et les écoles communautaires sont destinées aux enfants qui sont restés sur place. dont les parents n'ont pas pu effectuer le déplacement. Mais les écoles étant fermées avec l'absence des enseignants qui se sentent menacés, donc nous apportons aussi cette réponse-là à ces enfants-là, afin qu'ils puissent, étant sur place, toujours être connectés à l'éducation et pouvoir bénéficier des apprentissages.
Et voilà, c'était là la première partie de l'entretien avec M. Djoukou Kounaté, qui est notre invité. C'était sur les impacts des différentes crises que connaît le Mali sur la performance des élèves, notamment ceux déplacés à cause de l'insécurité. Merci beaucoup Mohamed Cissé. Depuis Ségou, nous allons faire un pas vers la rubrique Sketch. Nous allons à présent retrouver nos amis Zabiatou et Hamadi. Hamadi, le mari de Zabiatou, la surprend en pleine nuit en train de parler toute seule. Elle est en effet anxieuse au sujet de Samba, leur fils, qui fait l'EDF cette année. Elle est tellement stressée qu'elle en perd le sommeil. Hamadi, comme toujours, la rassure. Suivons leur échange.
Il faut que je réveille Samba. Il n'a pas révisé hier soir. S'il continue ainsi, je doute fort que le reçu soit d'œuf. Nous n'avons plus rien comme richesse. Il ne faudrait pas que lui aussi échoue.
Zabiatou, depuis quand tu parles seul? Tu as quel souci?
Hamadi, je suis anxieuse concernant l'examen de notre fils Samba. J'allais de ses pas le réveiller pour qu'il révise.
Zabiatou, ta peur est injustifiée. Samba, malgré le contexte difficile, est un bon élève.
Justement, le contexte est difficile. Souvent, nous devons nous contenter d'un seul repas par jour. Lorsque quelqu'un tombe malade, on a toutes les peines du monde pour le soigner. S'il n'étudie pas, comment va-t-on sortir de cette précarité?
Franchement, Zabiatou, tu te mets beaucoup trop de pression pour rien. Les enfants ne doivent pas jouer un rôle qui n'est pas le leur. Certes, Samba doit étudier, mais il doit aussi vivre son enfance. On ne peut pas mettre sur ses frêles épaules le poids de nos problèmes.
Hamadi, tu as tellement raison. Mais que faire? À quand la fin de ces conflits? Allons-nous pouvoir retourner un jour dans notre village? Pourrions-nous encore reprendre possession de nos terres?
Je n'ai certainement pas la réponse à toutes ces questions, mais je sais que la situation va évoluer. En plus, n'oublie pas les aides que nous recevons du gouvernement et des ONG. Dès notre arrivée sur ces sites, nous avons été pris en charge. Et c'est d'ailleurs une grande chance que nos enfants continuent l'école. Maintenant, je te conseille de positiver. Tout ira bien.
Inch'Allah, je l'espère bien, Hamadi. Je l'espère bien.
Est-ce que tu sais qu'il fait encore nuit? Faisons une prière et retournons dormir.
D'accord, Hamadi, si tu le dis, je te suis.
L'espoir fait vivre, dit-on, et c'est ce que nous venons de suivre dans ce sketch. Au-delà souvent des difficultés économiques, les PDI, les personnes déplacées internes, subissent des traumatismes à cause du changement brusque des conditions et des vies et de cadre de vie. Enchaînons avec la seconde partie de l'entretien du jour qui, je rappelle, est avec M. Djoukou Konaté de l'ONG Edico Mali basée à Ségou. Cette seconde partie est axée sur les initiatives spécifiques de l'ONG Edico Mali en faveur des élèves déplacés internes et des élèves de façon générale et comment est-ce que leur collaboration se passe avec les autorités administratives et celles locales pour justement maximiser l'impact de leur action sur la population. Également, nous allons évoquer leur implication pour davantage permettre aux élèves du DF de réussir à leur examen, spécifiquement ceux déplacés internes. Suivons ensemble.
Comment se passe la collaboration avec les autorités administratives et les communautés locales pour maximiser l'impact de vos actions?
Oui, bon, à ce niveau, la coordination quand même, la collaboration avec les services techniques et les autorités éducatives est essentielle, voilà, pour l'implémentation en tout cas de nos actions sur le terrain. Et je profite aussi pour dire que d'abord Edico est co-leader du groupe sectoriel Éducation, Protection, Abri, NFI dans la région de Ségou. Donc ce groupe sectoriel est l'organe de coordination des acteurs de l'éducation, de protection et d'abri NFI dans la région. Donc nous sommes co-leaders avec l'Académie d'enseignement de Ségou et de Sang, avec les directions régionales de développement social et la direction régionale de la promotion de la femme. Donc, dans en ce cadre, nous impliquons en tout cas l'ensemble des acteurs intervenants dans la région. Et nous travaillons étroitement avec les services techniques. En ce qui concerne personnellement EDICO, donc nous, dès le départ, nous faisons des protocoles de collaboration avec chacune des structures, que ce soit les services techniques ou les collectivités territoriales, pour la mise en œuvre des activités et leur implication. Donc, il y a aussi l'implication des collectivités territoriales dans le suivi et la mise en œuvre, en tout cas, des activités que nous faisons. La participation communautaire aussi à travers l'implication des mécanismes communautaires de protection, mais aussi les comités de gestion scolaire qui sont chargés, en tout cas, de la vie de l'école, voilà, au niveau communautaire.
Alors, quels sont les besoins les plus urgents actuellement pour soutenir la réussite des élèves ODF au-delà de tout ça?
Bon, en tant que point focal du groupe sectoriel éducation protection, représentant EDICO au sein de cet organe de coordination, nous tenons des réunions en tout cas avec l'ensemble des acteurs et les services techniques. Les besoins urgents qui apparaissent le plus souvent, c'est les renforcements de capacités pédagogiques à travers des cours de soutien ciblés. Voilà, donc avec les enfants, surtout les enfants qui sont en situation de déplacement, qui auraient perdu un certain temps. Donc il faut adresser des cours de soutien, sinon de remédiation, de rattrapage pour ces élèves. Il y a aussi la motivation et la stabilisation des enseignants. Donc, au cours, par exemple, de l'année scolaire, souvent, on trouve qu'il y a des enseignants qui sont mutés, en pleine mutation, ou parfois qui sont obligés de se déplacer pour des raisons de sécurité. Donc, il faut prendre des dispositions, en tout cas, pour motiver ces enseignants à travers des primes, des formations continues et d'autres accompagnements pour quand même pouvoir stabiliser ces enseignants. Il y a l'accès aussi à des outils pédagogiques adaptés. Donc, les enfants doivent avoir accès à des outils pour préparer les examens. Voilà, donc ça, c'est des éléments qui apparaissent comme urgents. Il y a l'appui au transport aussi et la sécurité des élèves et des matériels dans les zones où les examens vont se faire, comme je l'ai dit tantôt. Donc, il y a des centres qui ont été unifiés où on a demandé maintenant à des milliers d'enfants, voilà, de se déplacer pour aller vers ces centres, voilà, coordonnés. Donc, il faut vraiment penser aux moyens de déplacement de ces enfants et aussi à leur sécurité. Donc, il y a le renforcement des mécanismes de soutien psychosocial aussi qui doivent être, en tout cas, là partout où les enfants vont se regrouper, voilà, avec des activités de soutien mental. Et peut-être comme dernier élément aussi, il faudra surtout une meilleure coordination entre les acteurs, c'est-à-dire les ONG intervenants et les structures voilà, éducatives, plus maintenant les collectivités territoriales, pour que, c'est-à-dire les efforts qui seront déployés puissent vraiment être mieux coordonnés afin d'éviter les gaspillages et les doublons.
Quel message d'espoir, d'encouragement souhaitez-vous adresser aux élèves déplacés qui se préparent pour l'examen du DEF?
Ok, donc je dirais aux élèves candidats du DEF que malgré les difficultés que vous traversez, sachez que vous êtes courageux, voilà, fort, capable d'aller loin. Quitter votre maison, votre école, vos amis à cause d'une crise n'est pas facile. Mais vous avez su continuer à avancer avec dignité. Cela montre à quel point vous êtes des battants. L'école est votre droit, mais aussi votre chance. Même dans les mouvements les plus durs, elles peuvent être votre refuge, votre espace de rêve et d'espoir. En continuant à apprendre à lire, à poser des questions, vous préparez un avenir meilleur pour vous, vos familles et pour tous les pays. N'oubliez jamais que vous avez avec vous les ressources pour réussir. Entourez-vous de ceux qui vous soutiennent. Appuyez-vous sur vos enseignants. Voilà. Donc voilà des messages que moi je voudrais quand même adresser aux enfants. Ne baissez jamais les bras. Voilà.
Aux élèves déplacés surtout, qui vont faire le DF.
Voilà, aux enseignants et aux élèves déplacés qui vont faire les examens. Ne baissez jamais les bras. Vous êtes la lumière d'un avenir voilà, plus juste, voilà, et plus équitable et plus solidaire. Et surtout, vous n'êtes pas seul. Voilà, beaucoup de personnes croient en vous et travaillent pour que vous puissiez continuer votre chemin en sécurité, en toute dignité. Voilà, je vous remercie. Continuez à croire en vous. L'avenir vous appartient.
Monsieur Djoukou Konaté, merci.
Merci bien.
Et nous voilà de retour dans ce studio ici à la Maison de la Presse. Vous suivez votre émission humanitaire Faboudirène, fidèles auditeurs. Nous allons à présent ouvrir une fenêtre sur la page culture. Et nous voilà dans la rubrique artiste invité de la semaine. Et ce soir, nous vous proposons un entretien avec l'artiste Tima Maïga, joueuse de Goni. Elle s'est entretenue avec notre reporter Aïssata Diarra. Suivons ce qui en ressort.
C'est Fatouma Maïga, on m'appelle Tima.
Vous êtes une joueuse de Ngoni, c'est ça?
Exactement.
Alors, depuis quand vous faites ce métier?
Je dis que j'ai commencé à jouer le Ngoni, ça fait 3 ans.
Est-ce que c'est à travers une formation? Comment est-ce que vous êtes venue dans ce monde?
J'ai appris le Ngoni au conservatoire. C'est par amour. Depuis fort longtemps, moi, j'aimais vraiment cet instrument. On m'a toujours dit que c'est réservé qu'aux hommes, que c'est seulement les hommes qui ont vraiment droit à jouer cet instrument. Donc, quand je suis allée au conservatoire, j'ai décidé de prendre le Ngoni comme mon instrument traditionnel. Et d'accord. Maintenant, après le conservatoire, maintenant, je me suis approchée aux autres joueurs du Ngoni pour plus de performances et de formations.
Depuis que vous jouez cet instrument-là, est-ce que vous avez eu des difficultés?
Les difficultés, c'est les polémiques qu'il y a autour et tout. À part ça, moi, je pense que ça va.
Cet instrument-là, ça vous parle? Est-ce que ça dégage des messages ou bien comment...
Beaucoup. Le son du Ngoni, déjà, c'est comme une thérapie. Déjà, c'est vraiment quelque chose de très fort, c'est de haut niveau.
Alors avec le Ngoni, est-ce qu'il vous arrive de passer des messages? Mais si c'est le cas, quels genre de messages?
Tous les messages qui concernent à peu près la société. Que ce soit avec le Ngoni ou pas, franchement, tous les chansons que moi je fais, c'est pour passer des messages.
Est-ce que vous parlez généralement des déplacés internes et les réfugiés? Est-ce que vous parlez d'eux souvent?
Oui, même si ce n'est pas directement, je parle quand même des aides humanitaires.
Alors Tima, avant de se quitter, est-ce que tu peux nous jouer une note de Ngoni?
Bien sûr.
Merci, ça c'était Tima Maïga, la joueuse d'Ngoni.
Si vous venez de prendre le train en marche, sachez que vous suivez l'émission humanitaire de Sidio Tamani sur les antennes de nos radios partenaires. Nous avons suivi à l'instant l'artiste invité de la semaine. Oui, de la musique pour apporter une touche de couleur dans nos vies. J'espère que vous avez très bien apprécié, fidèles auditeurs. Faisons à présent de la place à la rubrique Proverbe de la semaine. Le proverbe de la semaine nous conduit ce soir dans la cité du Kénédougou. Nous allons tenter de comprendre le proverbe suivant. Une seule main ne peut attacher le fagot, elles doivent se mettre ensemble pour y parvenir. Notre correspondante depuis Sikasso, Hawa Bamba, a tendu son micro à Mohamed Diakité, sociologue. Suivons ensemble.
Une seule main ne peut attacher le fagot. C'est un proverbe qui est utilisé simplement pour exprimer le fait qu'il est nécessaire de réunir des efforts communs pour être plus fort. En effet, il est assez difficile d'affronter certaines situations en solo qu'en groupe. Voilà, c'est un peu l'explication succincte que je peux apporter à ça. Maintenant, en d'autres termes, on pourrait dire tout simplement que seul, on n'est rien, mais ensemble, on est quelque chose. En termes d'exemple ou encore d'illustration, je peux dire tout simplement, en cas d'inondation dans un quartier, il faudrait-il quand même qu'il y ait cette conjugaison d'efforts, faudrait-il quand même qu'il y ait cette solidarité pour que alors, ceux qui ont été victimes de ce cas d'inondation puissent au moins connaître une sortie, en tout cas heureuse, ou encore un dénouement par rapport à l'événement malheureux. Je dirais tout simplement qu'actuellement, nous sommes au Mali. Une seule personne n'est rien, mais ensemble, quand même, on peut construire ce Mali, dit Mali Croix aujourd'hui. La refondation d'un Mali, ça doit être fait en cœur. Mais si chacun devrait rester dans son coin et essayer d'agir seul, il serait quand même très difficile, que ce soit la paix ou autre chose. Tout projet humain, pour que ça puisse en tout cas perdurer, pour que ça puisse être réalisable, il faudrait quand même toujours agir ensemble. C'est à ce seul prix qu'on pourrait quand même faire réaliser tous les projets que les hommes auront sous la main.
Et voilà, nous ne cesserons de le répéter, une seule personne ne peut tout faire. Nous avons besoin souvent d'un plus petit ou plus grand que soi pour justement atteindre nos objectifs. J'espère que vous avez bien compris ce proverbe, fidèles auditeurs. Merci beaucoup et c'est sur ces mots que se referme cette émission. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez la réécouter gratuitement et toutes nos autres productions sur nos plateformes digitales. Bon début de semaine à tous.